La marge, c'est le nerf de la guerre pour tout investisseur immobilier. Alors quand on se lance dans une opération d'achat-revente, la question est cruciale. Quelle marge viser pour que ce soit rentable? Et la réponse est loin d'être évidente. 15%, c'est le seuil que certains recommandent. Et 20%, ça semble un peu plus intéressant, mais est-ce vraiment suffisant pour couvrir les risques? À 30% et plus, là, ça commence à devenir sérieux. C'est ce qui est venu expliquer Sylvain Turbet, marchand de main expérimenté, au micro du podcast de La Bonne Fortune lors de l'épisode 60. Il nous explique l'univers passionnant de l'activité de marchand de biens. Il revient en détail sur ses premiers flips et on analyse ensemble et en profondeur une opération d'achat-revente proposée sur lebonflip.com, la plateforme d'investissement collaborative. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une vidéo et un dossier complet avec tous les chiffres de ce flip immobilier en cours. Tu peux les télécharger depuis le lien que tu trouveras dans la description de cet épisode ou directement depuis lebonflip.com/vidéo. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir cette nouvelle émission.
Et donc les gens qui investissent dans cette foncière, ils le font principalement pour trois raisons. La première, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est donner du sens et faire quelque chose de concret avec son épargne, parce que son épargne est directement utilisée pour permettre à des gens de s'installer sur des projets vertueux pour l'environnement et qui permettent de nous nourrir localement. Il y a une initiative dont on parle pas beaucoup, qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, qui explique que si on stockait, donc 4 pour 1000 c'est 0,4% de plus de carbone dans les sols chaque année, sur toutes les parcelles agricoles, on compenserait complètement le réchauffement climatique.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Ross, donc un des cofondateurs de Ferme en Vie, FEV. Vincent, toi, si je dis pas de bêtises, tu es originaire du sud-ouest, du Pays Basque. Aujourd'hui, tu es sur toujours la côte ouest, mais un petit peu plus au-dessus du côté de Bordeaux. Tu as un petit background plutôt du secteur de la finance et aujourd'hui donc tu as cofondé cette boîte FEV qui traite l'installation, en tout cas qui favorise l'installation des nouveaux agriculteurs, tout ça dans un environnement avec une charte de, on va dire, d'agroécologie d'une façon générale, tout ça pour donner un petit impact positif sur les sols, sur le maraîchage, l'élevage, etc. On y reviendra un peu plus en détail le pourquoi du comment. Mais avant, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter, et certainement bien mieux que ce que je viens de t'écrire?
Ben, bonjour Ismaël, merci de me recevoir aujourd'hui. En effet, je suis originaire du Pays Basque. J'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis ingénieur généraliste. Et suite à mes études, j'ai travaillé pendant quelques années dans la finance au sein de la Société Générale. J'ai quitté la finance au bout de 5 ans pour monter ma première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées, une société qui s'appelle Senior Adom et que j'ai cédé à une mutuelle il y a quelques années. Et suite à cette aventure entrepreneuriale, j'ai eu envie de redémarrer une autre aventure je m'intéressais beaucoup à tout ce qui touche à l'environnement. Et je voulais que cette nouvelle aventure entrepreneuriale ait un impact positif sur l'environnement. Je me suis intéressé à pas mal de sujets et assez rapidement, je me suis focalisé sur l'agriculture parce que je suis convaincu qu'il y a pas mal de choses à faire dans l'agriculture. On va y revenir. Et donc j'ai rencontré mes trois associés avec qui on a décidé de, après quelques mois de discussions, d'échanges, de créer Fermes en Vie il y a 2 ans maintenant.
cool. Du coup, oui, c'est une émission où, bien sûr, on va parler d'investissement, de finances. Hein, c'est un podcast autour de ces thèmes, comment construire son épargne, son patrimoine, comment la faire évoluer, comment lui donner du sens également. Là, il y aura une belle partie aussi dessus. Mais on va énormément parler de peut-être de climat, d'environnement, de sol, de maraîchage, etc. Et pourquoi, toi, tu as fait cette bascule dans ton parcours, on va dire, entrepreneurial, professionnel, vraiment dont tu l'as introduit, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu pour faire vraiment une bascule et donner de l'impact pour avoir toi-même à ton niveau et faire participer d'autres personnes avec toi à avoir un impact positif sur l'environnement d'une façon générale?
Ouais, alors j'ai une prise de conscience assez progressive il y a quelques années. J'ai lu des bouquins, en particulier un bouquin de Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui m'a fait prendre conscience des enjeux un peu systémiques et des problématiques écosystémiques, parce que jusqu'à présent j'avais un petit peu la vision de l'ingénieur, peut-être à me dire que y avait des problèmes et qu'on allait forcément trouver des solutions, potentiellement des solutions avec la technologie, avec la technique. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait pas mal de limites planétaires qui faisaient que il allait falloir réduire notre impact sur l'environnement, sur l'usage des ressources. Ça c'est le premier livre que j'ai lu. Après je me suis intéressé à pas mal d'autres choses, j'ai lu d'autres bouquins, en particulier La Gélothèque de Philippe Biwix, et j'ai écouté pas mal de podcasts, de choses sur ce sujet-là. Cette prise de conscience qui date de quelques années, qui a pas mal coïncidé avec la naissance de mes filles, fait que je me suis dit, je veux recréer une boîte. Et j'ai besoin que cette boîte ait un impact positif sur l'environnement. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un sujet qui est très complexe. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer quelque chose qui soit en lien avec ça. Je me suis intéressé à pas mal de sujets. Je me suis intéressé à des sujets qui touchent à l'économie circulaire. Je me suis intéressé un petit peu à l'énergie, au transport, et puis finalement assez rapidement je me suis intéressé à l'agriculture, parce que l'agriculture elle touche à la fois à des problématiques de stockage ou déstockage du carbone qui a un impact direct sur le réchauffement climatique, ça a un des impacts sur la perte de biodiversité, ça a des impacts sur la pollution des sols, la pollution des eaux, et puis ça a un impact social assez fort. Et donc je me suis dit qu'il y avait certainement des choses à faire dans l'agriculture, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser avec un œil assez neuf, puisque j'ai ni famille dans l'agriculture ni expérience. Donc j'y suis arrivé avec un œil assez neuf, et cette expérience on va dire du monde agricole m'a été apportée par mes associés avec qui on a décidé de créer FEV.
Super. Bon, on voit quand même aucune expérience, mais quand même où tu cites tes ressources, notamment les deux livres qui sont peut-être, notamment peut-être La Gélothèque, je ne connais absolument pas, qui doivent être des ressources un peu plus techniques que ce que moi je peux, par exemple, lire comme bouquin sur le domaine, comme je t'expliquais juste avant, ou qui sont un peu plus de divertissement, ou un peu plus sur le potager, agroécologique, en permaculture, quelque chose un peu plus simplé. Toi, tu as quand même cette prise de conscience avec des ressources un peu plus techniques, un peu plus poussées, malgré tout, quoi.
Alors, c'est des ressources qui sont assez généralistes, hein. C'est-à-dire que La Gélothèque, c'est pas un truc sur l'agriculture, mais c'était un bouquin qui m'avait beaucoup intéressé, parce que c'est Philippe Biwix, c'est une personne que je trouve assez intéressante, qui s'est beaucoup intéressée à la disponibilité des ressources en métaux, des ressources naturelles, et donc j'ai trouvé que son bouquin était très intéressant. Et après, en effet, je me suis aussi intéressé plus particulièrement à l'agriculture, et là j'ai lu aussi d'autres bouquins, et je trouve que quand on commence à s'intéresser au sujet, il y a un bouquin que je trouve très intéressant sur l'agriculture qui s'appelle L'histoire des agricultures du monde, de Marcel Mazoyer et Laurence Roudard, qui est un bouquin qui reprend un petit peu l'histoire de l'agriculture depuis le début de l'agriculture il y a des milliers d'années. Et je trouve que c'est passionnant de voir comment les choses ont évolué et comment on en est arrivé à l'agriculture d'aujourd'hui. Voilà.
Super intéressant. Ben écoute, tu m'as déjà spoilé mes questions que je pose d'habitude à la fin sur est-ce que tu as des ressources à recommander, etc. On inverse le champ, mais c'est super. J'ai noté ça. De toute manière, comme d'habitude, je mettrai les liens des références des différents bouquins, etc. cités dans les notes de l'épisode hein, pour celles et ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir plus. En tout cas, ouais, l'histoire des agricultures du monde, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est vrai qu'on est passé jadis de la cueillette, de la chasse, de la cueillette à de l'agriculture, peut-être, allez, on plante un petit noyau quelque part, ça fait un arbre, on a des fruits, à aujourd'hui une agriculture vraiment peut-être intensive après-guerre, avec la mécanisation qui est arrivée, beaucoup d'intrants, avec le pétrole, etc., que ce soit pour faire tourner soit les engins ou alors la chimie pour les engrais, les pesticides, etc. Mais est-ce que tu peux décrire un petit peu aujourd'hui la problématique peut-être justement de l'impact sur l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît, la grande exploitation, les grands tracteurs dans le champ, on verse du glyphosate à la fin pour tuer tout ce qui peut pousser sur le sol et puis après on remet des engrais pour faire booster les nouvelles plantes. Quels sont les impacts, en quoi c'est peut-être problématique, etc. Ouais. Il y en a, je pense, beaucoup d'entre nous, même si les auditeurs ont plutôt une appétence sur l'investissement, la finance, on y reviendra bien sûr, mais certains d'entre nous sont conscients de ces impacts, mais peut-être pas tout le monde, et c'est quoi la problématique de ça et quelles sont les solutions derrière? Tu parlais de stockage de carbone.
Ouais, alors il y a pas mal de problématiques et il y a des solutions. Après, faut garder en tête que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est super compliqué. Les problématiques, en effet, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, augmenter les rendements pour augmenter les rendements, on a mécanisé. On a agrandi les surfaces et on a commencé à utiliser beaucoup d'intrants. Donc quand on parle d'intrants, c'est principalement des engrais et puis toutes les choses en id, donc les fongicides, pesticides, etc., qui sont des produits chimiques en général qui permettent de tuer tout ce qui est mauvaises herbes ou ravageurs, insectes qui pourraient détruire les cultures. Et en fait, l'usage de ces pesticides a beaucoup augmenté avec le temps et avec l'agrandissement des surfaces. Parce que plus on a agrandi les surfaces, souvent en monoculture, plus ces surfaces, elles sont à même d'être touchées par des ravageurs, des maladies. Et puis quand la maladie, elle commence à toucher quelques plantes, si toutes les plantes d'à côté, c'est les mêmes, globalement, elles ont plus de chances d'être touchées par cette maladie et ces ravageurs. Et donc, on a potentiellement plus besoin d'utiliser des pesticides pour traiter ces maladies. Donc, c'est une sorte de cercle non vertueux qui a fait que petit à petit les surfaces se sont agrandies, on a utilisé de plus en plus d'intrants, on a utilisé de plus en plus de pesticides, et puis on a beaucoup labouré. Aujourd'hui il y a beaucoup de discussions autour du labour des sols. Le labour, c'est quelque chose qui permet assez facilement d'enfouir les mauvaises herbes et qui permet également d'apporter un peu plus de fertilité au sol temporairement, mais le labour, il génère d'autres problématiques, des problématiques d'érosion des sols. Donc, c'est-à-dire que quand on a labouré, les sols restent à nu souvent, et s'il pleut, s'il y a du vent, il y a une partie du sol qui s'en va, et le sol, ça met très longtemps à se recréer, et donc on a des problématiques d'érosion qui, au bout de quelques dizaines d'années, peuvent être dramatiques, puisque le sol n'a plus du tout sa fertilité. Et donc souvent, on a besoin encore plus d'apporter d'engrais, ça coûte de plus en plus cher à rendre les sols fertiles. Donc il y a pas mal de problématiques qui sont à la fois liées cette érosion du sol, qui sont liées à l'usage des pesticides. Et les pesticides vont avoir un impact négatif sur la vie des sols, ont également un impact négatif sur la santé des agriculteurs qui sont au plus près de ces pesticides, et ensuite un impact négatif sur les consommateurs qui vont ingérer ces pesticides lorsqu'ils vont manger des fruits, des légumes, de la viande. Et alors il y a beaucoup de discussions sur l'impact de ces pesticides sur la santé humaine. Et il y a pas mal de controverses, mais globalement, enfin moi je reste convaincu. Il y a pas mal d'études qui montrent que ces pesticides ont un impact négatif sur la santé. Donc voilà, donc c'est assez large. Et puis oui, c'est vrai que je parlais de carbone tout à l'heure. On parle de plus en plus d'agriculture régénératrice versus l'agriculture conventionnelle, avec cette agriculture régénératrice qui a pour objectif de régénérer les sols. Quand on dit régénérer les sols, ça veut dire essayer de conserver un peu plus de vie dans les premiers centimètres de sol. Qui dit vie dit matière organique, dit eau. Et donc ça veut dire qu'on va, en utilisant certaines pratiques, pouvoir stocker plus de carbone dans les sols, stocker plus d'eau, et donc quand on stocke plus d'eau aussi, on a besoin d'utiliser un petit peu moins d'eau venant de l'extérieur, puisqu'avec plus de carbone dans les premiers centimètres de sol, on arrive à stocker plus d'eau sur du plus long terme, qui sont ensuite disponibles pour les plantes qui doivent pousser par la suite. Donc voilà, donc il y a pas mal de sujets assez différents. À la fois, j'ai parlé de sol, j'ai parlé de carbone, j'ai pas parlé de biodiversité. C'est vrai que la biodiversité, elle est impactée aussi par les pratiques agricoles, à la fois par l'usage des pesticides, mais aussi par la création de grandes parcelles avec assez peu de diversité de plantes, ce qui génère une perte de diversité également de la faune et de la flore sauvage. Et donc, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui essaient de replanter des arbres, de replanter des haies pour retrouver des systèmes un petit peu bocagers qu'on peut avoir dans certains coins encore en France, et qui permettent d'améliorer la biodiversité autour de ces parcelles. Biodiversité qui est importante pour plein de raisons et qui permet également de mieux lutter contre les ravageurs sur les cultures.
D'accord, ouais. Donc c'est vraiment l'idée de passer un système conventionnel qui, entre guillemets, pour vraiment synthétiser en deux mots tout ce que tu viens d'expliquer magnifiquement, qui détruit la vie et qui s'enfonce dans un cercle, toi tu parles moins vertueux, mais moi je parlerais même de cercle vicieux, de sortir de ce modèle pour plutôt aller sur un modèle régénérateur des sols, de la vie, de la biodiversité, avec toujours pour l'agriculteur au milieu la problématique de comment je m'en sors pour moi manger à la fin du mois, d'avoir mon chèque et d'avoir mon salaire, d'avoir ce rendement qui m'apporte un revenu, parce que l'équation, je pense que in fine elle est là, donc c'est historique, il y a une évolution comme ça après-guerre, etc., etc., s'est introduit. Ça s'est fait relativement doucement ou plus ou moins vite, ça dépend de comment on se place. Mais avec cette problématique pour l'agriculteur d'avoir un rendement et d'avoir de quoi manger à la fin de l'année. Et puis après, on a vu, il y a aussi des études qui ont prouvé, qui ont montré les bienfaits d'un côté, les moins bienfaits de l'autre, chose qui n'était peut-être pas le cas après-guerre. Donc ça, c'est pour la partie compréhension. L'agriculteur ne le fait pas sciemment détruire son sol, sa matière première. On va pas détruire soi-même son outil, son entreprise, sa boîte volontairement. Donc ça peut s'expliquer. Mais voilà, aujourd'hui, la solution, c'est d'accompagner ces gens sur une agriculture plus vertueuse, tout en leur permettant de s'y retrouver également. Est-ce qu'il y a des modèles qui fonctionnent d'agriculture aujourd'hui sur sol vivant, régénérateur, avec des arbres, des haies, etc. On imagine un champ, on voit très bien le tracteur qui passe, qui fait son labour, ensuite qui sème avec les grands rails, là derrière le tracteur, j'ai pas le nom, qui sème en grande quantité et qui vient récolter en grande quantité. Il a fait 3 passages en tracteur, ça lui a pris 3 heures, je caricature volontairement, mais ça lui a pris 3 heures, il a récolté 3 tonnes de blé. Aujourd'hui, comment faire pour récolter 3 tonnes de blé si je mets des arbres ici et là, des haies, des trucs pour passer? Est-ce que je vais devoir faire un travail à la main, de récolte à la main, etc. En termes de rendement, est-ce qu'il y a des modèles régénérateurs comme ça de tout ce que tu as pu évoquer qui sont économiquement viables?
Oui, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup plus réfléchir à comment on fait les choses et réfléchir à beaucoup plus long terme. Mais on voit de plus en plus d'agriculteurs qui développent des nouvelles techniques ou des nouveaux process et qui arrivent très bien à s'en sortir en produisant de manière plus vertueuse pour l'environnement, en utilisant moins de ressources. Beaucoup de gens commencent à utiliser l'arbre en faisant de l'agroforesterie. Et donc là, pour permettre malgré tout de pouvoir passer avec des tracteurs, parce que malgré tout, cette mécanisation, elle est quand même utile en effet pour pas pour faciliter les récoltes, pour faciliter le fait de semer. Par exemple, en agroforesterie, souvent les arbres ils sont plantés en ligne, ce qui permet de passer entre les arbres. On a de plus en plus d'agriculteurs qui développent des techniques avec des synergies entre différentes cultures, qui vont faire un petit peu de culture végétale avec un petit peu d'élevage et utiliser l'élevage comme un auxiliaire pour les cultures. Typiquement, quand on veut produire en agriculture biologique et qu'on essaye de labourer de moins en moins et d'essayer de tendre vers la conservation des sols, une des bonnes solutions, c'est lorsqu'on a planté une culture intermédiaire, c'est-à-dire que c'est une culture qui va être plantée entre deux cultures, enfin entre un maïs et un blé ou je sais pas quoi, on va planter des cultures intermédiaires pour pas laisser les sols à nu. Et une bonne façon de nettoyer la culture entre les deux cultures principales, c'est de faire pâturer des animaux qui vont venir manger la culture intermédiaire. Et donc il y a de plus en plus de gens qui essaient de mixer, d'utiliser certains animaux pour faciliter le travail du sol, faciliter l'enchaînement des cultures. Et il y a à la fois des exemples sur des projets en maraîchage, des projets d'arboriculture, des projets de production de céréales qui fonctionnent très bien. Et souvent, ceux qui marchent bien, c'est ceux qui réfléchissent aussi bien à comment ils vont vendre leur production et comment ils la transforment. Dans les bons exemples, typiquement, c'est des gens qui... Enfin, des exemples, en tout cas, des gens qui arrivent à s'en sortir financièrement, c'est des gens qui vont transformer un peu leur production. Oui. Quand je parle de transformer, c'est typiquement quelqu'un qui fait du blé ou du sarrasin et qui va transformer ce blé ou ce sarrasin en farine et qui peut même aller jusqu'à faire du pain. C'est des gens qui vont ils vont beaucoup mieux valoriser leur production et donc ils vont souvent un peu mieux s'en sortir d'un point de vue financier. Et il y a de plus en plus d'exemples de ce type sur le terrain, des choses assez originales, des choses un peu moins originales, mais on voit pas mal d'exemples qui marchent bien.
D'une certaine façon, d'un point de vue technique, c'est pas si contraignant que ça de passer sur une agriculture sur sol vivant, respectant la biodiversité, etc., d'une part. Et deuxièmement, d'un point de vue économique, c'est largement faisable également par plein de mécanismes, comme tu as dit, mieux valoriser, etc., etc.
J'ai pas dit que c'était... pas si compliqué. C'est quand même complexe parce que ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'observation. Et il y a quand même, il y a besoin d'être formé. C'est encore une minorité de personnes qui s'en sortent et qui y arrivent. Donc c'est quand même, ça reste un sujet très complexe. Et c'est justement beaucoup plus complexe de faire comme cela plutôt que de continuer en conventionnel. Où là, les choses sont simples, on sème, on met des pesticides quand il faut, et puis on récolte.
Ouais, la réflexion est plus complexe, faut avoir une vision plus large peut-être, etc. Mais en tout cas, c'est possible, quoi. C'est vraiment en ce sens, c'est possible, c'est faisable. Il y a des exemples qui fonctionnent. Moi, je pense naturellement l'exemple de la ferme du Bec loin et la ferme de Sainte-Marthe, par exemple, pour citer deux types de fermes.
Ouais, c'est des bons exemples qui sont assez connus, en effet, la Bec et loin. Et là, d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder. Il y a un documentaire qui est passé sur Arte. Avec plusieurs épisodes récemment, qui s'appelle Roots, je crois, et qui est justement très intéressant, qui montre des exemples sur différents types d'agriculture, plutôt positifs. Et je trouve que c'est très bien fait.
Ce reportage, pour l'avoir visionné également, on en a discuté le dernier coup, est vraiment très 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 bien fait. Reportage de 5 épisodes, si je dis pas de bêtises, de une demi-heure. Vraiment ouais, très très bien fait, comme tu dis, avec des exemples différents, que ce soit sur du maraîchage, que ce soit sur de l'élevage, que ce soit même sur la viticulture, etc. Et c'est assez significatif de ce qui est possible de faire, des contraintes également qui sont associées. Et pour aller un petit peu plus loin sur tous ces domaines, ouais, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Roots, ouais, je mettrai également en note de l'émission. On va prendre aussi les exemples des fermes que vous accompagnez avec Fèvre. On va développer un petit peu Fèvre, etc. Et puis comme ça, tu pourras nous dire quel type de ferme vous avez accompagné, qu'est-ce qu'ils font, et pour continuer un peu sur ces sujets. Juste pour finir sur un peu la point de vue impact, technique et pourquoi, tu parlais du stockage de carbone, tu parlais de biodiversité. quels sont aujourd'hui, si peut-être tu vois, tu aurais peut-être des données chiffrées, peut-être s'appuyer sur le rapport du GIEC ou sur des données de l'INRA ou je ne sais pas, quels sont les impacts aujourd'hui si on continue un petit peu à faire comme avant, et quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de stockage de carbone, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc., pour le réchauffement climatique. Est-ce que tu as des données là-dessus?
L'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique, il est assez énorme. Je me rappelle plus, malheureusement, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on parle de, si je dis pas de bêtises, de 15 à 20% de l'impact. Il est essentiellement dû à l'usage des sols, à l'usage de d'intrants chimiques, à l'élevage, avec un impact qui est sur le CO2 et le CH4, le méthane. Et puis après tous les protoxydes d'azote qui sont liés aux engrais, qui sont des très forts gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, moi ce que je retiens, il y a une initiative dont on parle pas beaucoup, qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, qui explique que si on stockait, donc 4 pour 1000 c'est 0,4% de plus de carbone dans les sols chaque année sur toutes les parcelles agricoles, on compenserait complètement le réchauffement climatique. Et quand on pense à 0,4%, ça paraît quand même assez faible. Donc on se dit que y a peut-être une bonne solution pour essayer de compenser le réchauffement climatique en essayant de stocker un petit peu plus de carbone dans les sols. Alors c'est pas toujours facile, il y a des endroits où il y a déjà beaucoup de carbone et donc on peut pas facilement remettre du carbone dans les sols. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en gros, dans les premiers centimètres, on va dire les premiers 50 centimètres de sol, il y a beaucoup plus de carbone que dans toute l'atmosphère. Et donc, voilà, il y a un vrai gisement qui fait que si on s'en occupe mal, on déstocke du carbone dans les sols. Et si on s'en occupe bien, entre guillemets, on peut remettre de la matière organique et donc stocker beaucoup plus de sol dans ces, beaucoup plus de carbone dans ces sols.
Ok, donc 0,4%, ça suffirait a priori d'après les données chiffrées à arrêter le réchauffement climatique, juste avec ça.
En tout cas, ça permettrait de compenser, ouais, complètement les émissions de gaz à effet de serre actuelles.
De ce que produit l'agriculture ou toute notre activité humaine.
Toute l'activité humaine.
Et ouais.
Okay, donc c'est après, je dis pas que c'est facile et que c'est possible. On peut s'en approcher. Je pense que c'est compliqué d'y arriver, mais on peut s'en approcher. Mais en tout cas, c'est un ordre de grandeur que je trouve intéressant parce que c'est juste 0,4% de carbone en plus dans les sols. Et donc ouais, vous pouvez chercher sur internet, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000 en lien avec ça.
Super intéressant. Et à l'échelle de l'individu, j'ai une bêtise, mais on plante un arbre dans son jardin, on y participe.
Ah oui, c'est sûr. On plante un arbre ou n'importe quoi en fait, parce que souvent on pense carbone égale arbre, mais même en plantant d'autres types de plantes dans les sols, on stocke du carbone avec les racines, le système racinaire, toute la faune qui gravite autour de ce système racinaire. Et on en parle souvent pas beaucoup, mais une prairie, par exemple, une prairie qui est permanente, stocke pas autant qu'une forêt, mais quasiment autant qu'une forêt dans les sols.
D'accord, ok. Donc ouais, l'idée, ouais, c'est n'importe quel type de sol, faut qu'il soit le plus végétalisé possible d'une façon générale.
Ouais, exactement.
Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu Fèvre? On va voir un petit peu. Donc là, on a fait une belle introduction sur la biodiversité, sur l'agriculture, etc. Pourquoi Fèvre? Donc tu me disais que tu l'as cofondé avec trois autres personnes. Est-ce que tu peux juste en deux mots décrire tes associés, quel est un peu plus leur parcours et qu'est-ce que vous avez fait avec Fèvre et qu'est-ce qu'un investisseur pourrait voir faire et avoir et gagner à investir également à vos côtés?
Ouais, mes trois associés sont donc il y en a deux qui sont ingénieurs agronomes de formation, qui sont aussi entrepreneurs comme moi puisqu'ils ont monté une autre entreprise dans le passé, l'un déjà dans l'agriculture, l'autre plutôt dans l'informatique. Donc ils s'étaient un peu éloignés du monde agricole pendant un certain temps. Et la quatrième, elle est fille d'agriculteur, s'est toujours intéressée à ce sujet. Elle s'en est un peu éloignée lors de ses études, puis elle a décidé de s'y consacrer il y a quelques années. Et elle a eu une expérience dans une association en particulier qui promeut justement tout ce qui est agriculture de conservation des sols. Et donc, tous les quatre, on s'est retrouvés avec une ambition commune qui était d'accélérer la transition agroécologique. Et on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire pour accélérer cette transition qui ne va pas assez vite selon nous. Au départ, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut essayer de faciliter le changement des pratiques des personnes qui sont en place ? Et puis en s'intéressant un peu au secteur, on s'est rendu compte que la moitié des agriculteurs allaient partir à la retraite d'ici 10 ans. Et donc on s'est dit, plutôt que d'essayer de changer les pratiques des gens qui sont en place, on va essayer de travailler sur l'installation et sur comment favoriser des installations avec un côté un peu plus vertueux pour l'environnement. Et donc, quand on s'est intéressé à l'installation et quelles sont les problématiques à l'installation et qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas assez d'installations en agroécologie, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros sujet sur l'accès au foncier et sur le financement du foncier pour permettre à des gens de s'installer. Et donc, c'est un peu de cette conclusion et de cette réflexion qu'on s'est dit, on va créer une structure, donc une foncière, qui va acheter du foncier pour permettre à des jeunes de s'installer. L'idée, c'est que cette foncière, tout simplement, elle achète des fermes, puis ensuite, elle les loue à des personnes qui s'engagent sur une charte agroécologique. Et cette foncière, elle donne une option d'achat pour que ces personnes qui se sont installées puissent devenir à terme propriétaires de ces fermes s'ils le souhaitent et s'ils en ont la capacité financière. Et en parallèle de cette réflexion, on s'est dit, il y a de plus en plus de gens qui veulent donner du sens à leur épargne, qui veulent avoir un impact positif et concret avec leur épargne. Et donc, on a décidé que cette foncière, elle serait financée par de l'épargne citoyenne. Aujourd'hui, cette foncière, elle est ouverte à des citoyens à partir de 500 euros d'investissement. Et donc, les gens qui investissent dans cette foncière, ils le font principalement pour trois raisons. La première, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est donner du sens et faire quelque chose de concret avec son épargne, parce que son épargne est directement utilisée pour permettre à des gens de s'installer sur des projets vertueux pour l'environnement et qui permettent de nous nourrir localement. La deuxième raison, c'est que l'investissement, il se fait dans quelque chose qui est, on n'a pas trop de droit de dire que c'est pas risqué, mais c'est globalement peu risqué parce que l'investissement, il est dans un actif tangible qui est du foncier agricole. Donc les gens investissent dans de la terre agricole et dans des bâtiments agricoles. Et quand on regarde l'évolution du prix dans le passé de cet actif, il est assez peu volatile, il a progressé assez régulièrement dans le temps. Et la dernière raison, c'est que quand on investit dans la foncière, on bénéficie d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant qui est investi, ce qui rend les choses financièrement plus attractives. Donc voilà un peu ce qu'on fait avec Fève. La foncière, elle existe depuis un peu plus d'un an. On a collecté sur cette foncière 4 millions d'euros, un peu plus que de 4 millions. On en a utilisé un peu moins de 3 pour financer 5 premières fermes.
Ok.
Et là, on a 5-6 projets qu'on aimerait pouvoir concrétiser d'ici la fin de l'année. Et donc, on cherche entre 4 et 5 millions d'ici fin d'année pour pouvoir concrétiser ces nouveaux projets.
Tu as donné énormément d'éléments. En tout cas, tu as fait un tour d'horizon de ce que vous proposez avec Fève. Et déjà, félicitations pour ce travail, pour ce bébé qui a vu le jour il y a un petit peu plus d'un an. Et aujourd'hui, on voit que c'est déjà sur une bonne rampe de lancement, que c'est déjà bien abouti. Et donc, déjà, félicitations à toi pour ça, parce que j'imagine que ça a demandé un petit peu de réflexion et un petit peu de travail et peut-être quelques nuits blanches.
Ouais, quelques-unes.
Pour résumer, les trois missions de FEF, c'est d'une part de sélectionner des fermes, des projets agricoles qui sont en vente, d'en faire l'acquisition. Deuxièmement, de trouver des agriculteurs qui veulent s'installer en respectant cette charte agroécologique. Et donc les faciliter à l'installation dans un premier temps par une location avec une option d'achat, si par le temps ils le peuvent, etc. Et troisièmement, c'est de faire de la collecte citoyenne, donc permettre aux particuliers, tout à chacun, ou éventuellement des entreprises, on y reviendra, mais de pouvoir financer, participer et donner du sens d'une façon générale à leur épargne. C'est les trois missions de FEB.
Ouais, exactement.
Avec cette utilité sociale de permettre donc à des gens d'avoir du boulot, hein, de s'installer dans des bonnes conditions, etc., etc. J'imagine que vous les accompagnez peut-être, ou comment se fait le recrutement des personnes qui veulent s'installer si demain n'importe qui voit de la lumière, mais est en capacité de payer le loyer, a envie et vient, mais comment vous faites les filtres? C'est pas juste je signe la charte, mais derrière je vais balancer 3 tonnes de glyphosate et mettre.
Ouais, ben il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en effet, on essaye d'identifier des porteurs de projets qui ont un projet viable sur le papier. Donc on a des équipes avec nous en interne, des ingénieurs agronomes, des gens qui connaissent un petit peu le métier et qui vont juger de la pertinence des projets qui nous sont proposés. Mmh. Ensuite, on se met d'accord un petit peu sur le projet qui va être réalisé par la personne. Ça nous arrive de challenger, de lui demander d'aller un peu plus loin sur, enfin d'essayer d'aller un peu plus loin sur un sujet ou un autre. Quand on est convaincu par à la fois la viabilité du projet, que le projet il est conforme sur le papier à la charte agroécologique, ensuite on procède à l'acquisition de la ferme qui est envisagée. Là aussi, notre rôle, c'est à la fois de vérifier que le prix de la ferme, il est correct, qu'on l'achète à un prix de marché, de vérifier que la ferme, elle peut être réutilisée pour un autre projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas un projet trop original, parce que si le projet se plante, bah, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre pour développer un projet sur la même ferme. Donc, on fait en sorte d'acquérir des fermes qui peuvent accueillir différents projets si le premier ne réussit pas. Mmh. Et ensuite, on passe un petit peu de temps avec ces porteurs de projets pour les accompagner et faire en sorte qu'ils aient plus de chances de réussite. Alors, on les accompagne pas sur les aspects techniques. En général, on leur demande de se faire accompagner par un tiers sur les aspects techniques, un tiers de leur choix. Parce que c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur sur ces aspects-là. Et nous, on essaie de les accompagner sur tous les à côté. Donc sur comment mieux commercialiser, comment éventuellement mettre en place un outil pour transformer la production et mieux la valoriser, comment valoriser les externalités positives. Donc, quand je parle d'externalités positives, c'est typiquement, on parlait de carbone tout à l'heure, si on stocke un peu plus de carbone dans les sols, il y a un moyen aujourd'hui qui s'appelle le label bas carbone qui permet à des entreprises de compenser le carbone qu'elles émettent de manière volontaire, et elles peuvent le compenser en achetant des crédits auprès d'agriculteurs qui vont eux stocker du carbone dans leur sol. Et donc voilà, donc on essaye d'accompagner les agriculteurs sur ces différents aspects de façon à ce que ils s'en sortent mieux et qu'ils arrivent à développer leur projet. Et la dernière chose, c'est que nous, on est aussi garant vis-à-vis des investisseurs que ces agriculteurs, une fois qu'ils ont démarré leur projet, ils suivent bien la charte agroécologique qu'on a définie au début. Et donc, on s'occupe d'aller vérifier que cette charte elle est bien suivie. Et donc, on se déplace régulièrement sur site pour pouvoir effectuer les vérifications. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la charte qui a été signée par les agriculteurs, les principaux éléments se retrouvent dans les baux qu'on signe avec eux. Donc ils sont tenus par les baux de suivre cette charte et de continuer à produire tel que c'est défini entre nous.
Il y a un engagement d'une part morale avec la charte, mais il y a également
un engagement contractuel,
un élément juridique contractuel avec le bail. Ouais. Après, même si sur ce dernier point, j'imagine tout à l'heure, je faisais la blague avec l'agriculteur qui viendrait, qui dévasserait son glyphosate, j'imagine que l'agriculteur qui vous sollicite, qui vient avec vous, etc., est déjà dans une démarche aboutie, dans une volonté d'eux, et que vous avez aucun souci de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la personne qui veut s'installer avec vous a quand même... vous lui offrez quand même une armada d'un point de vue assistance, on va dire, juridique, commercial, peut-être même fiscal, pour avoir les subventions. Tu parlais, des éventuelles subventions avec le stockage du carbone, etc. Enfin, J'imagine que tout le monde n'a pas forcément connaissance de tous les mécanismes dont ils ont le droit à avoir, peut-être des subventions de la PAC également. Et c'est vrai que déjà d'être agriculteur, c'est d'être chef d'entreprise avec de l'administratif classique, une comptabilité classique, mais en plus c'est un petit peu particulier, technique. Enfin bref, et donc le fait d'avoir cette assistance avec vous qui avez un œil déjà une expertise, ça permet de faciliter, d'accompagner, d'aller plus vite et de rassurer également. Et ça c'est bien.
Exactement. Ouais.
Tu peux nous parler des quelques projets là, donc des 5 projets que vous avez déjà montés, accompagnés.
Ouais, avec plaisir. Les 5 projets, ils se situent dans le Grand Sud-Ouest, parce que donc on est basé à Bordeaux, donc on a commencé notre activité plutôt dans le Grand Sud-Ouest. Donc les 5 projets, ils sont en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Mmh. On commence à regarder les projets qui sortent de ces régions-là, mais pour l'instant, les 5 premiers sont là. Donc on a des projets qui sont assez diversifiés. La première ferme qu'on a financée, c'est une ferme qui est dans les Deux-Sèvres. C'est une ferme d'une 50aine d'hectares qui est majoritairement sur de l'élevage aujourd'hui. Donc c'est de l'élevage sur des prairies, quasiment que sur des prairies permanentes, parce que c'est des terres qui sont pas des très très bonnes terres et donc qui peuvent pas être très bien valorisées autrement que par de l'élevage. Et donc on est sur de l'élevage 100% plein air avec des animaux qui sont nourris par l'herbe principalement des prairies. Et avec il y a un petit peu de volaille également et un atelier de transformation qui permet justement de faire de la découpe et de la transformation sur le site.
D'accord.
Et également avec des gîtes. Donc c'est un endroit qui est très beau, ça s'appelle la ferme de Maillantru, qui a quatre chambres d'hôtes. Donc je vous invite si vous voulez passer un week-end, c'est un très bel endroit. Donc ça c'est la première ferme qu'on a financée. Ce qui était intéressant, c'est que c'était deux ouvriers agricoles qui avaient travaillé sur cette ferme dans le passé. En tant qu'ouvrier, en tant que salarié, mmh. et qui ensuite ont travaillé sur d'autres fermes, qui ont acquis de l'expérience sur d'autres fermes et qui voulaient s'installer, mais qui n'avaient pas la capacité de s'installer, de financer une acquisition. Et donc, en achetant la ferme pour pouvoir leur louer, on leur a permis de s'installer et de réaliser leur rêve. Voilà, il faut voir un petit peu cet investissement comme un investissement à la fois environnemental, parce qu'il permet d'installer des projets plus vertueux pour l'environnement. Mais également, c'est un investissement qui a un impact social fort, parce qu'il permet à des jeunes de s'installer alors qu'ils auraient eu beaucoup plus de difficultés de s'installer sinon.
Donc ça, c'est la ferme de Magnantrou. Là, je suis sur le site.
Ouais.
Vous avez les projets sur votre site internet là qui sont décrits, etc. Et en effet, ce que je vois, c'est à 90 km de chez moi. Et en effet, les petites chambres d'hôtes.
Ouais.
Pourquoi pas y aller faire un petit tour avec les enfants et découvrir tout ça, c'est rigolo.
Exactement. Et donc, bien sûr, enfin, comme toutes nos fermes dans la charte agroécologique, j'ai pas dit, mais toutes nos fermes sont en agriculture biologique, ce qui est donc leur cas également. Le deuxième projet qu'on a financé, c'est une ferme assez originale, c'est une forêt comestible dans les Landes, donc une forêt comestible ou forêt jardin. C'est une sorte de mix entre de l'arboriculture et du maraîchage. Donc l'idée, c'est de produire sur différentes strates au sol avec des petits arbustes et puis des arbres et de créer des synergies entre différentes cultures différentes. Certaines allant apporter de l'azote à d'autres, certaines apportant un petit peu d'ombre à d'autres parce qu'elles ont besoin d'un petit peu d'ombre. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de créer une... Et ça s'appelle une forêt comestible ou forêt jardin parce qu'on s'inspire de la nature et de la forêt pour recréer des écosystèmes très diversifiés et qui produisent des choses. Et donc là, c'est un projet qui est parti de rien, puisqu'on est parti de parcelles qui étaient pas cultivées depuis 4-5 ans et qui avant avaient été cultivées en maïs pendant des années.
D'accord, ouais.
Et donc, on en est encore au démarrage du projet. Ça fait, il a commencé il y a 7-8 mois maintenant. Il a fait pas mal de plantations. Il est actuellement, donc c'est Johan qui est actuellement en train de il utilise aussi, il y a des eaux, il y a de l'eau qui passe dès lors qu'il pleut au milieu dans une sorte de rigole en bas de ses parcelles. Et l'idée, c'est d'essayer de récupérer ces eaux pour faire des bassins de rétention d'eau et donc de recréer des zones humides au milieu de sa ferme. Donc c'est un projet qui est très ambitieux, qui est hyper intéressant, qui est très compliqué pour le coup d'un point de vue technique et qui va mettre du temps à se mettre en place. Et donc là, il en est encore un petit peu au démarrage. Ils sont deux sur le projet aussi.
Ok. Ouais.
Et donc voilà. Donc ça, c'est notre deuxième projet. Après, je sais pas si on va tous les décrire, mais
non. Mais
voilà, ça c'est les deux premiers. On en a trois autres qui sont assez différents aussi, qui sont sur des parcelles un peu plus grosses, avec souvent, comme je le disais tout à l'heure, un mix entre des cultures végétales et un petit peu d'animal, avec toujours l'idée, l'objectif d'essayer de trouver une synergie entre ces cultures animales et cultures végétales, parce qu'on est convaincu que c'est un modèle qui est très intéressant pour essayer d'avoir un petit peu plus de résilience et qui permet aux agriculteurs de s'en sortir également d'un point de vue financier.
Ouais, bien sûr. Et puis tu parles de résilience et puis de mixer les pratiques. Ça me paraît du bon sens, tellement aujourd'hui logique. Quelqu'un qui fait que de la monoculture de maïs, il y a une catastrophe, il se prend la graine ou une gelée, quelque chose, il perd 100% de sa récolte. Le mec qui fait du maïs, de l'élevage, du bovin, du truc, il a sa grippe aviaire sur ses poulets, mais il a encore ses cochons, il a encore son maïs, il a encore son verger, j'en sais rien, et puis la transformation. Ouais. Et donc il y a un impact lors de phénomènes particuliers, un impact beaucoup plus minime qui peut être en capacité d'absorber.
Exactement.
La diversité, c'est comme pour notre épargne, c'est comme pour beaucoup de choses.
Exactement, la diversité, la diversification, c'est très important pour plein de sujets. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Mais tu prends l'exemple des forêts, mais c'est clairement ça. Dans une forêt, on voit bien ce côté multi-étagé, multi-végétaux, la faune, de la flore, etc. Et qui est là depuis des centaines d'années, qui n'a pas attendu l'intervention de l'homme pour s'y implanter et qui est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus résistante que d'autres systèmes à nu ou monoculture, etc. Ces agriculteurs doivent être heureux aujourd'hui, doivent être à fond, doivent être contents.
Ouais, bah ils sont contents d'avoir pu s'installer en général. Après, je t'avoue que cet été a été pas facile pour certains d'entre eux qui ont quand même été touchés par la sécheresse. L'été a été compliqué, mais la plupart sont en effet contents de s'être installés. Enfin, ils sont tous contents de s'être installés et d'avoir pu démarrer leur activité récemment.
Ok, ouais. Donc, on peut aller les voir. Tu parlais donc de la ferme là du côté de Niort, à côté, avec les chambres d'hôtes, etc. J'imagine qu'ils sont disponibles. Certains vendent sur place, font le commerce directement sur place.
Ouais, c'est ça. La plupart vendent en direct. Après, certains viennent de s'installer parce que je t'ai dit qu'on a financé 5 fermes depuis le début, mais il y en a certaines qu'on a financé. L'installation des dernières date de cet été.
Ils sont en cours d'installation.
Pour l'instant, ils sont encore en cours d'installation. Ils ont encore pas vraiment de production à vendre, mais ça va venir dans pas longtemps. Et la plupart essayent de vendre en circuit court, en effet. Certains, comme la ferme de Magnantru, il y a un petit peu d'agritourisme. Chez les autres, pour l'instant, il y en a pas. Mais ils sont toujours contents de voir des gens et de pouvoir échanger et partager de ce qu'ils font, parce que c'est souvent des gens qui sont des passionnés, en fait.
Ils aiment bien
parler de leur passion.
Ouais, bien sûr. Donc ça, ouais, pour le côté agriculteurs qui veulent se mettre en place. Et maintenant, pour l'investisseur, quelqu'un qui voudrait participer un petit peu à tout ça. Alors, tu l'as décrit un petit peu tout à l'heure, disponible à partir de 500 €, donner du sens à son épargne, donner du sens, éviter de laisser dormir. On en parlait dans l'épisode 17 avec Laure Vérag de l'Endosphère. A donné les chiffres, l'épargne qui dort en banque représente plus d'émissions de carbone que, je crois, tout le transport, c'est des chiffres astronomiques. Et d'une part, d'investir dans des projets-là, ça sort un petit peu l'épargne qu'on aurait sur un livret A ou les banques. Bon, le livret A, c'est peut-être le mauvais exemple parce qu'ils vont faire dans l'habitation, etc., mais de sortir cette épargne qui est utilisée sur des énergies peut-être fossiles, etc. Et d'une part, donc on limite en le retirant là-dessus. Et en plus, on peut l'investir et donner du sens et avoir un impact positif. Est-ce que tu peux décrire un petit peu le process? Comment ça fonctionne, le circuit de la personne qui investit? Vous avez récolté 4 millions d'euros. C'est quoi aujourd'hui le ticket moyen que vous avez peut-être des personnes qui investissent, etc. Est-ce que tu peux décrire un petit peu tout ça un peu plus en profondeur, Vincent, s'il te plaît?
Ouais. Alors aujourd'hui, on a en effet collecté 4 millions d'euros avec à peu près 300 personnes. Donc le ticket moyen, il est autour de 13 000 euros. Avec des très grosses variations, puisqu'on a des gens qui ont investi 500 euros. Et d'autres qui ont investi jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je dirais qu'on a, ouais, on a différents types d'investisseurs. On a des investisseurs qui ont mis des petits tickets de 500, 1000, 2000 euros parce que eux, souvent, ils ont envie de faire quelque chose avec leur épargne et ils sont convaincus par le projet, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de revenus ou pas beaucoup d'épargne, donc ils investissent des petits montants. On a beaucoup de gens dans la tranche moyenne qui ont investi entre 5 000 et 40 000 euros et eux c'est souvent des gens qui ont un peu plus de patrimoine qui essaient également d'optimiser un petit peu leurs impôts en bénéficiant de la réduction d'impôts dont je parlais tout à l'heure, 25% du montant qu'il investit, et qui en même temps sont contents de faire quelque chose qui soit positif pour l'environnement et socialement. Et ensuite, on a la tranche où les gens qui ont investi beaucoup plus, donc 100 000 ou 200 000 euros, ça, c'est des gens qui ont beaucoup de patrimoine, qui cherchent pas forcément de revenus importants sur leur patrimoine. Et d'ailleurs, la réduction d'impôts, ils en bénéficient pas vraiment parce que ils sont au-dessus de tous les plafonds. Mmh. Et eux, ils le font vraiment parce qu'ils ont envie de donner du sens à leur épargne. Et en faisant ça, ils le font voilà, sans prendre, en sachant qu'ils vont récupérer leur mise. Et en sachant que les sommes qu'ils ont versées auront été utilisées de manière positive pendant un certain temps.
Ouais, auront un plus grand impact forcément. Et donc pour souscrire, vous avez FEB, donc c'est une SCA, une société en commandite par action. L'investisseur, il m'a indiqué donc à partir de 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000 euros. Il est propriétaire d'une ferme que vous allez avoir en projet. Il est propriétaire de parts dans la société.
L'investisseur, il est propriétaire, il devient sociétaire ou actionnaire de la société, donc la foncière.
D'accord.
Donc c'est parce que c'est une société à capital variable. Donc à D'accord. chaque fois qu'on a de nouvelles souscriptions, le capital va changer. Il faut le voir un peu comme chaque investisseur n'est pas propriétaire d'une ferme ou d'une partie d'une ferme en particulier, mais de toutes les fermes qui sont financées par la foncière. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait avoir dans une SCPI finalement. L'investissement dans cette foncière permet de mutualiser des investissements dans ces différents projets. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est pas vraiment, souvent on nous parle de crowdfunding. C'est pas exactement du crowdfunding parce que les gens ne vont pas choisir dans quelle ferme ils investissent, mais ils investissent dans un véhicule qui va financer tous ces projets qui ont un objectif commun qu'on a décrit tout à l'heure.
Ouais, et le crowdfunding souvent c'est de l'obligation, ouais. Donc une dette avec un rendement associé, que là non, c'est de la prise de participation dans la foncière.
Exactement.
Et donc cette prise de participation derrière, là tout de suite, moi j'y vois un avantage, comme tu disais, c'est la diversification. On n'est pas engagé sur un seul projet, on participe avec la mutualisation de tous les projets. Là aujourd'hui tu as 5, demain 10, 15, 20, 30, 100, 200 projets. Il y en a un qui se casse la goule malheureusement, c'est tout. Ça représente, si tu as 100 projets, ça représente 1% les jeux.
Ouais.
Donc il y a une certaine forme de sécurité d'une part. Il y a de la prise de participation, donc on est réellement propriétaire hein, d'une partie, une partie de l'action de la société. Qu'est-ce que l'investisseur a en retour ? Est-ce qu'il y a un revenu comme du locatif ? Est-ce que vous reversez ouais. Une part ? Comment on s'y retrouve derrière ?
Ouais, alors la détention de parts ne donne pas droit au paiement de dividendes. C'est-à-dire que la foncière, elle va louer les fermes à des agriculteurs. Ces agriculteurs donc payent des loyers. Ils ont aussi la possibilité d'acheter, donc ils pourraient racheter la ferme au bout d'un certain temps, et donc ça c'est des revenus qui vont être touchés par la foncière. Et l'objectif c'est que la foncière elle réutilise tous ses loyers et tout ce qu'elle touche pour pouvoir financer d'autres projets. Et donc c'est pour ça qu'on donne, on va pas payer de dividendes, mais la part de la foncière va être réévaluée chaque année grâce à justement ces loyers qui sont payés et grâce à l'évolution éventuel du prix du foncier. Nous ce qu'on a comme objectif c'est que cette part de la foncière elle soit réévaluée d'à peu près 2% par an grâce à ces différents éléments. Et donc c'est ça qu'on ambitionne et qu'on vise sur l'évolution du prix de la foncière, et cette réévaluation de la part elle vient en plus de la réduction d'impôt dont je parlais tout à l'heure, qui est touchée au moment de l'investissement. C'est-à-dire que si vous investissez en 2022, vous touchez 25% de réduction d'impôts sur les impôts de 2022.
D'accord. Ouais. On reviendra sur le système fiscal, mais juste là, donc on a bien compris. Donc vous faites le choix de pas distribuer de dividendes pour pouvoir faire l'acquisition plus rapidement pour développer la boîte, un peu à l'image si on fait la transposition avec le marché boursier. Il y a des entreprises technologiques. Typiquement beaucoup chez les GAFA qui font ce choix de pas donner de dividendes, vraiment en minime, très très peu, voire zéro, nul, pour réinvestir, et là, c'est le prix de l'action qui augmente, ou alors, à l'inverse, il y a des actions dites à dividendes qui donnent beaucoup, beaucoup de dividendes, mais le prix de l'action, lui, stagne, et c'est le revenu, c'est le dividende. Donc, c'est vraiment des choix différents. Donc, vous, le but, et ça se comprend amplement, hein, c'est de favoriser l'enracinement de ces agriculteurs, etc. Donc, vous avez besoin de réinvestir pour faire l'acquisition de fermes, tout ça. Tu parles de l'objectif d'une réévaluation, c'est votre objectif de 2% de l'action. Comment, qu'est-ce qui vient jouer sur le, parce qu'on est sur un marché aujourd'hui donc non coté, qu'est-ce qui vient jouer sur la réévaluation des parts? Quels critères sont à prendre en compte? Parce qu'aujourd'hui, vous avez levé 4 millions, vous avez 4 projets qui tournent, etc., avec X de loyer ou de fermage, hein, dans votre cas là. Si demain, vous avez 8 millions et 8 projets, 8 fermes, le prix de la part, elle n'aura pas fait x2 parce qu'il y aura eu des souscriptions, capital variable, donc ça sera équivalent. Qu'est-ce qui vient nourrir ces 2%? Comment ça fonctionne?
Ouais, il y a deux choses qui viennent nourrir ces 2%.
Enfin, cet objectif, hein, de 2%, on dit. Hein,
ouais, ouais. Il y a deux choses en fait qui permettent à la part de se réévaluer. La première, c'est les loyers qui sont payés par les agriculteurs. Donc les loyers, il faut considérer donc les loyers sur des baux ruraux, donc c'est les baux consignes avec des agriculteurs, ils sont fixés par des arrêtés départementaux. Donc on peut pas faire n'importe quoi, ce qui est bien aussi parce que ça permet de protéger les agriculteurs. Mais ces loyers, ils sont relativement faibles. On arrive sur du 1,5% par an, une fois qu'on a enlevé tous les coûts étant la taxe foncière, les travaux sur les bâtiments qui incombent aux propriétaires, un peu comme dans l'immobilier, et puis un peu tous les coûts de gestion et d'administration. Et donc voilà, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la réévaluation du prix du foncier. Donc un peu comme dans l'immobilier, le prix du foncier évolue avec le temps. Quand on regarde sur les 15-20 dernières années, la moyenne de l'évolution du prix des terres en France, ça a été du entre plus 3 et plus 5% selon les types de terres par an. Donc et avec une progression assez régulière, même si parfois ça c'est il y a des années où ça évolue pas trop, mais voilà, c'est la moyenne sur les 15-20 dernières années, avec peut-être une progression un peu moins rapide ces dernières années. C'est pour ça que nous, dans nos hypothèses, on part plutôt sur une réévaluation du foncier qui sera un peu plus basse que ce qu'on avait vu sur les 15-20 dernières années. Mais voilà. Et donc cette évolution du prix de la terre aura un impact sur le prix de la part directement. Un impact positif ou négatif, parce que si la terre perd de la valeur, ça peut également sur le papier faire perdre de la valeur à la part. Ce qu'il faut savoir sur le prix des terres également, c'est que le prix des terres en France, il est même s'il est trop important pour l'installation de jeunes agriculteurs, il reste beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Le prix de la terre en France, en moyenne, c'est 6000 euros de l'hectare.
D'accord, oui. Pour la terre agricole, on est bien d'accord.
Pour la terre agricole, ouais. Ouais, si c'est des terres où vous faites construire votre maison, c'est un peu plus cher. Ouais. Mais pour la terre agricole, on est sur 6000 euros de l'hectare avec des grosses variations. Hein. Dans certains coins, on est à 2000 et dans d'autres, on est à 30 000. Donc il y a quand même des grosses variations selon les endroits.
Comme l'immobilier, hein, qu'on soit à Paris centre ou alors au fin fond de la Creuse, on va pas avoir les mêmes prix au mètre carré.
Ouais, c'est ça. Mais je trouve que la différence est encore plus grosse parce qu'on entre 2000 et 30 000, on a vraiment une échelle de 1 à 15, ce qui est quand même très très gros. Et quand on regarde les pays autour, dans certains pays, on est entre 20, 30, 40 000 euros du mètre de l'hectare en moyenne. Ah oui. Donc c'est le cas en Italie du Nord. C'est le cas en Hollande, on est à plus de 50 000. En Belgique, on est autour de 30 000, je crois.
Ah oui.
Donc, même en Allemagne, on est autour de 15-20 000 en moyenne. Donc, des prix qui sont quand même beaucoup plus importants qu'en France. Ce qui s'explique principalement par la régulation qui existe en France, qui est une double régulation. Il y a à la fois la régulation des loyers dont je parlais tout à l'heure, qui sont fixés par des arrêtés départementaux, qui font que les prix n'augmentent pas trop. Et il y a également le rôle de la SAFER, qui est un organe qui s'occupe de contrôler un petit peu les transactions dans la ruralité, que ce soit dans la forêt ou dans l'agricole, et qui fait que les terres sont données de manière privilégiée à des agriculteurs, ce qui fait que ça limite un petit peu l'envolée des prix en France. Malgré tout, il y a quand même pas mal de gens qui anticipent, malgré cette régulation, que les prix continuent à augmenter assez sensiblement dans les prochaines années.
Ouais. Et puis il y a la terre agricole, mais il y a également le bâti. Là, je vois sur l'exemple de votre ferme dans les Deux-Sèvres, où tu dis que la personne a installé des chambres d'hôtes, etc. Il y a aussi une partie habitation dessus qui est déclarée en tant que telle aujourd'hui, hein, même sans penser une éventuelle transformation de destination. Il y a l'habitation qui, là, dans ce cas, j'imagine, a été bien revalorisée en ayant mis des chambres d'hôtes, en ayant retapé, redonné vie. Donc, le bien en tant que tel a été valorisé. Et même sur vos projets, j'imagine que la ferme qui a été achetée X au prix du marché aujourd'hui, si demain, il y a un beau projet qui est implanté dessus avec un bon commerce qui est viable, le tout de façon vertueuse, etc., agroécologique, avec une diversité, une résilience, tout ça, ça valorise, j'imagine, l'exploitation d'une façon générale également, quoi.
Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, quand on achète une ferme, on achète à la fois des terres et du bâti. Alors, pas toujours. Parfois, les porteurs de projets souhaitent acheter leur maison, et donc on achète soit que les bâtiments agricoles, soit que les terres. Quand je dis que les bâtiments agricoles et les terres, ou que des terres. Et de temps en temps, on achète aussi la maison. Et on essaye en effet de valoriser au mieux ces bâtiments. Donc là, par exemple, pour faire des gîtes, par exemple, pour développer d'autres activités agricoles et des ateliers de transformation. Alors là, l'atelier de transformation, il existait déjà dans ce projet. Oui. Mais sur d'autres projets, on est en train de regarder pour installer un atelier de transformation, parce que c'est quelqu'un qui produit du lait et l'objectif, ce serait de faire la transformation fromagère ou en yaourt directement sur le site. Et ce qu'on fait également pour essayer de mieux valoriser ces bâtiments, c'est qu'on essaye de regarder tout ce qu'on pourrait faire par ailleurs. Par exemple, on est en train de regarder sur certains bâtiments d'installer des panneaux solaires pour produire de l'énergie photovoltaïque et donc améliorer le revenu des propriétaires, mais également améliorer le revenu des agriculteurs. L'idée étant d'un peu de partager ces revenus supplémentaires entre les deux parties, et ce qui valorise aussi mieux le bâti dans ces endroits-là.
Ok, ouais, super intéressant, mais vraiment pour faire la transposition avec l'immobilier classique, locatif, on achète un taudis, un appartement qui est délabré, on le retape, on le redonne une nouvelle vie. Soit il y a des coûts liés aux travaux, il y a du temps, de l'énergie, mais derrière, la valorisation de l'appartement n'a plus rien à voir avant, après, en fonction ou du simple home staging, du n'importe quoi, mais voilà, il y a une valorisation qui a été faite, il y a une plus-value, et donc tout ça viendra contribuer donc également à la valorisation de la part également en dehors que le simple prix du marché, quoi. L'investisseur a mis son ticket, donc la part est réévaluée tous les ans. Vous faites un point, il en est informé, c'est lors des AG ou...
Ouais, déjà on informe tous les investisseurs de tout ce qui se passe régulièrement, et des communications qui partent tous les mois en général, pour essayer d'expliquer les acquisitions, les nouvelles acquisitions, les projets, comment se passe l'exploitation des fermes déjà acquises. Chaque année, il y a en effet une AG lors de laquelle on va valider les comptes et le budget de l'année d'après, et lors de laquelle on va fixer ensemble l'augmentation de la part de la foncière. Nous, en tant que gérant de la foncière, on va proposer une valeur sur la base de d'évaluation des actifs détenus par la foncière, et cette valeur, elle sera validée par les actionnaires qui votent tous ensemble pour confirmer cette nouvelle valeur.
Ok, d'accord, ouais. Bon, j'y reviendrai après sur le fonctionnement justement de cette société, parce que donc l'investisseur est directement intégré et donc actionnaire de la société. Il n'y a pas de SAS entre deux, de holding, etc. qui viennent dedans. Donc tu vas te retrouver avec des AG demain avec 3 000, 4 000, 10 000, 100 000 personnes.
Oui.
C'est prévu, c'est un choix, c'est.
Ouais, c'est prévu, c'est un choix. En effet, on pensait que c'était important de mettre l'investisseur au cœur des décisions. Alors pas au cœur des décisions de tous les jours, hein, parce qu'on va pas poser la question tous les jours aux investisseurs dès qu'on lève le petit doigt. Mais l'idée, c'est que l'investisseur, il a un vrai rôle actif au sein de la structure. Les investisseurs vont pouvoir voter le budget, valider les comptes et émettre un avis sur le rôle, sur notre rôle en tant que gérant. Et d'ailleurs, les investisseurs sont représentés pour cela par un comité de surveillance qui regarde plus précisément ce qu'on fait au quotidien, qui est indépendant, qui est choisi par ses investisseurs et qui émet un avis chaque année avant l'AG sur ce qu'on a fait et qui va pouvoir permettre de faciliter le vote en AG des différents investisseurs qui ont, eux, pas forcément le temps de regarder tout ce qu'on fait au quotidien et de lire tous les documents qu'on envoie.
Ouais, bien sûr.
Parce que ce qu'on a décidé aussi, on pense que c'est hyper important, c'est d'être le plus transparent possible.
C'est ce que j'allais dire, ouais. La volonté de faire participer, que l'investisseur soit actif s'il l'envie, qu'il peut, il a les moyens en tout cas de s'investir.
Ouais.
Et en même temps, cette volonté de transparence vraiment maximum poussée en tout cas, c'est intéressant. Ouais.
Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on essaye de pousser, donc on crée des échanges un peu entre les agriculteurs et les investisseurs. Donc on crée des webinaires de temps en temps où on génère des discussions entre un agriculteur et des investisseurs pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qui se passe, un peu mieux ce qu'ils font. On organise des visites, là, on organise prochainement le 24 septembre une visite sur la ferme de Magnantru. Et ce qu'on essaye de faire là aussi, on va lancer un appel à tous les investisseurs justement pour leur demander s'ils ont envie d'aider d'une autre manière que d'une manière financière les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise qui ont des besoins financiers, mais qui ont des besoins de toutes sortes, que ce soit des besoins juridiques, marketing, commerciaux, techniques, comptables. Et on se dit que peut-être que il y a certaines personnes dans la communauté d'investisseurs qui pourraient les aider sur des sujets ponctuels ou plus réguliers. Et donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire le lien finalement entre ces agriculteurs et ces citoyens investisseurs.
Ok, ouais, super intéressant. Donc ça, d'accord. Pour revenir sur le modèle de l'investissement, donc la personne prend des parts, donc en direct, encore une fois, là, dans la foncière. C'est de l'investissement, on va dire, dit patrimonial, hein, sur du moyen long terme, du coup, avec une revalorisation de parts chaque année, comme on a vu. La fiscalité, tu parlais des 25% de réduction, parce que donc ça joue aussi. Aujourd'hui, c'est quoi ce mécanisme? Donc, c'est l'IR-PME. Est-ce que tu peux le redécrire un petit peu? Qu'est-ce que l'investisseur, techniquement, je mets 10 000 euros aujourd'hui. Tu m'as parlé de 2022. J'aurai donc à la fin de l'année la possibilité de déduire, etc. Est-ce que tu peux faire un petit point sur ça?
Ouais. Alors, la réduction fiscale, elle fonctionne de la manière suivante. En effet, si tu investis 10 000 euros cette année, tu as le droit à 2 500 euros de réduction d'impôt l'année où tu as investi. Donc tu la déclareras l'an prochain parce que voilà, la déclaration sur les impôts de 2022 se fait en 2023, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs limites à cette réduction d'impôt. La première, c'est que en contrepartie de la réduction d'impôt, tu dois conserver les titres pendant minimum 7 ans. Nous, au niveau de la foncière, on n'empêche pas la personne de demander un rachat de titres et donc de désinvestir avant 7 ans. Mais si tu désinvestis avant 7 ans, tu es censé rembourser la réduction d'impôt que tu as touchée, sauf si tu réinvestis ces sommes dans une PME, dans une jeune PME qui a moins de quelques années.
Oui, qui est éligible à ce dispositif.
Et qui est éligible au même dispositif.
Si on réinvestit sous les 2 ans peut-être ou quelque chose comme ça.
Ouais, je crois que tu dois réinvestir assez rapidement en effet.
Ouais.
Donc faut plutôt le voir. En général, les gens le voient plutôt comme un investissement de moyen long terme. C'est-à-dire qu'il faut considérer que si tu veux bénéficier de cette réduction d'impôt, que tu ne toucheras pas à cet argent pendant 7 ans.
D'accord. Et techniquement, pour X raisons, il y a quand même la possibilité pour l'investisseur de sortir parce que, indépendamment de ça, il investit, il a fait un mauvais choix, il y a un problème de trésorerie, il doit racheter sa voiture. Il a la possibilité, techniquement.
Mais c'est ça. Il a la possibilité de demander le rachat, mais dans ces cas-là, il est censé rembourser la réduction d'impôt qu'il a touchée à l'État. Donc, si tu récupères, dans ton exemple, les 10 000 euros, tu peux récupérer les 10 000 euros, mais tu vas devoir rembourser les 2 500 euros à l'État
qu'il
a touché au démarrage. La deuxième limite, c'est un plafonnement. Le plafonnement, il est Alors il y a un plafonnement lié à cette à ce type d'investissement qui est de un investissement maximum de 50 000 euros ou 100 000 euros quand on est en couple, je crois. Mmh. Mais le plafonnement qui est le plus important à mes yeux, c'est le plafonnement global des niches fiscales à hauteur de 10 000 euros par an de réduction ou de crédit d'impôt sur différents dispositifs. Et en particulier sur les niches fiscales qui sont liées à l'utilisation de services à domicile. Donc typiquement, quelqu'un qui vient faire le ménage ou qui vient garder vos enfants à domicile, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% sur les sommes versées. Et ce crédit d'impôt, il doit être comptabilisé avec les autres réductions d'impôt que vous pourriez avoir en IR-PME, qui est le dispositif dont on bénéficie. Et donc, il faut le regarder un peu globalement. Donc, si vous avez, je ne sais pas, 2000 euros de crédit d'impôt, parce que vous avez une personne qui vient faire le ménage à domicile, vous avez le droit d'aller chercher jusqu'à 8000 euros d'impôt de réduction d'impôt supplémentaire, ce qui voudrait dire, dans un investissement comme le nôtre, un investissement de 32 000 euros pour bénéficier de ces 8 000 euros de réduction d'impôt.
En effet, 25% de 32 000, 8 000 s'il y a déjà 2 000 avec la femme à ménage, l'aide à domicile, ouais. Etc. Merci pour cette particularité fiscale, en plus d'aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que c'est intéressant de prendre en compte. Après, toujours pareil, hein, les personnes qui sont intéressées, faites un petit point avec un comptable, demandez aux impôts pour aller vraiment au bout des choses. Et voilà. Mais donc, c'est quand même un levier important. C'est vrai que la fiscalité dans les choix d'investissement, hein, l'immobilier ou autre, ça a quand même un poids important. Et ça peut faire des différences. Et si on le met d'un point de vue vraiment financier, en l'occurrence, c'est tout de suite 25%. 25% de gains, entre guillemets, tout de suite maintenant. Après, voilà, c'est pas un cadeau de l'État, hein. Ce sont des incitations fiscales pour justement pouvoir permettre aux particuliers d'investir dans ce type de projet. OK, donc l'investissement patrimonial, la valorisation de la part qui augmente, la réduction d'impôt. Donc là, la réduction d'impôt, c'est pour les personnes qui investissent en personne physique. On peut investir en personne morale, quelqu'un qui a une boîte et qui veut placer sa trésorerie, il pourrait le faire également.
Oui, c'est possible. Alors, on sait quand même, on n'accepte pas toutes les boîtes en investissement, c'est-à-dire que on s'est gardé le droit de ne pas accepter l'investissement de certaines sociétés. L'objectif, c'est d'éviter l'accaparement des terres par certaines sociétés ou certaines sociétés qui voudraient faire du greenwashing. On a décidé on a un droit de regard sur les sociétés qui pourraient investir. Et aujourd'hui, on a les seules sociétés qui ont investi sont plutôt des sociétés civiles de particuliers qui souhaitaient investir via une personne morale qu'ils avaient créée, mais qu'ils détiennent en nom propre ou de manière familiale. C'est principalement ce genre d'investissement qu'on a eu jusqu'à présent.
Ouais, bien sûr. Ok, mais bon, techniquement, en tout cas, c'est faisable également.
Tout à fait.
C'est aussi éligible au PEA PME.
Alors oui, c'est éligible au PEA PME.
Parce que ça peut être intéressant. Tu parlais des 25% l'IR PME. Ça va quand même être intéressant peut-être à des personnes qui sont sur des tranches marginales d'imposition, peut-être à 30% ou supérieure. Mais la personne qui serait peut-être sur une tranche inférieure ou ponctuellement. Elle a quand même la possibilité de faire valoir son PEA PME et là c'est pas inintéressant aussi. On a fait une émission sur le PEA PME sur le podcast aussi, mais donc ça c'est éligible également au PEA PME quoi.
Ouais, tout à fait, c'est éligible. Enfin, ce qu'il faut savoir c'est que c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Si on investit dans le PEA via son PEA PME, on n'a pas le droit à la réduction d'impôt.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Parce qu'il y a d'autres réductions qui sont liées à l'objet qui est le PEA PME.
Bien sûr, mais la personne qui serait déjà au plafond parce qu'il fait d'autres investissements ou une personne qui ne paierait très très peu d'impôts mais qui voudrait mettre 10 000 euros aurait peut-être, dans ce cas, peut-être plus intérêt à investir via le véhicule du PEA PME.
Exactement.
Qui peut être intéressant le cas échéant et sur du long terme, etc. En plus, ça colle parfaitement. Donc ça, c'est également possible.
Ouais, complètement.
Je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon pour l'investisseur, donc l'impact social, sociétal, environnemental, la possibilité d'être actif, participatif, que ce soit au sein, d'avoir une transparence au sein de la société, donc FEV, la foncière, et puis également au sein des différents projets, s'il veut même aller plus loin, qu'il y a un petit projet, une ferme à côté de chez lui, il peut aller rendre visite, faire un coucou, juste déguster des bonnes choses, ou voire même s'investir également, vous faites le lien avec tout ça. Le fonctionnement de FEB, du coup, vous avez forcément des frais à appliquer. Vous avez une gestion, vous êtes une boîte, etc. Quel est le fonctionnement de FEB par rapport à ça?
Ouais, alors nous, on considère qu'on a trois métiers. On a un premier métier qui est de collecter de l'épargne. On a un deuxième métier qui est de monter des projets. Donc ça, au sens large, ça veut dire identifier les porteurs de projets, les accompagner, trouver les fermes, négocier le prix, etc. Et on a un troisième métier qui est de gérer l'actif détenu par la foncière.
Ok.
En faire la gestion locative. Et en fait, on a une rémunération qui correspond à chacun de ces trois métiers. Donc la première partie, c'est la souscription, la collecte. Donc il y a des frais de souscription.
D'accord.
À hauteur de 2,5% hors taxe ou 3% TTC, qui sont plafonnés à 600 € et qui sont facturés aux personnes qui souscrivent. Donc quand vous souscrivez à 10 000 € d'actions, vous allez payer 10 300 €, avec ces 300 € qui correspondent aux 3% du montant qui est investi. La deuxième chose, c'est monter le projet. On a un gros travail en amont pour monter le projet, pour trouver, comme je disais, les porteurs de projet, les fermes, etc., faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Et donc là, c'est à chaque fois que la foncière elle investit dans un projet, elle va payer une commission à Fermes en Vie pour pouvoir payer tout le travail qui a été réalisé en amont, un peu comme, ça ressemble un petit peu au travail qui aurait été réalisé par une agence immobilière.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est des frais qui entrent dans l'acquisition de la même façon que des frais de notaire. Et donc là, la commission, c'est 5% qui sont intégrés dans le prix d'acquisition par la foncière. Et la dernière chose, donc, c'est la gestion locative. Une fois que les fermes elles sont louées, nous, on doit s'occuper de faire en sorte que les loyers soient bien payés, que on s'occupe de gérer les travaux quand il y a des travaux à faire sur les fermes, etc. Et puis les relations avec les agriculteurs. Et sur cette partie-là, donc c'est une partie des loyers qui va être utilisée pour payer ces frais. Mmh. Si je reprends en pourcentage, les loyers bruts, globalement, c'est à peu près du 3%. Et une fois que j'enlève tous les coûts, on arrive sur du 1,5%. Et donc sur les 1,5% entre le brut et le net, il y en a 0,4 qui sont utilisés pour justement cette gestion locative. Le reste, c'est de la taxe foncière et d'autres coûts. Et donc voilà, c'est ces 0,4% qu'on utilise pour payer les gens qui s'occupent de la gestion locative de ces projets.
Donc oui, les 3% à la souscription, les 5% la foncière pour faire Fermes en Vie lors des acquisitions, et après 0,4% de gestion sur les loyers.
C'est ça.
Ouais, donc des coûts qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on peut retrouver à droite ou à gauche, hein, que ce soit les SCPI, etc. Souvent, on a des frais d'entrée à 10%, on peut avoir moins, etc. Ça se regarde, hein, mais à 10% tout de suite, sur la gestion, c'est pareil. Enfin, où tu prenais l'exemple des agences immobilières. Hein, l'agence immobilière, on va communément avoir du 6, 7, 8, 9, voire 10% de frais, et la gestion locative qui se trouve souvent à 6, 7%. Après, bon, le marché est plus disparate, il n'y a pas, comme tu disais, les loyers plafonnés, enfin avec les mêmes règles, etc., les mêmes enjeux, mais vous êtes sur des frais tout à fait, à mon sens en tout cas, cohérents. Et déjà, merci pour ta transparence aussi par rapport à tout ça. Ok, ben écoute, ça donne en tout cas bien envie de planter des fèves, je sais pas, mais de venir à vos côtés. Du coup, cool. Est-ce que pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui, qui, comme moi, auraient envie d'investir avec vous à travers FEV, est-ce qu'ils pourraient avoir bénéficié d'un petit quelque chose de ta part?
Oui, ce qu'on propose, c'est une réduction de 50 € sur les frais de souscription en utilisant le code promo La Bonne Fortune.
Ok, tout attaché en minuscules, La Bonne Fortune.
Tout attaché en minuscules, ça devrait fonctionner. Et puis si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à nous écrire.
D'accord, donc 50 €, c'est super super sympa. Donc ce qui ferait des frais gratuits jusqu'à une hauteur d'une souscription, jusqu'à quasiment 2 000 € de souscription, les frais sont gratuits. Et puis celles et ceux qui souhaitent investir plus, enfin, dans tous les cas, ça fait 50 € d'offerts. Donc, profitez-en également. C'est quoi le prochain projet là qui va voir le jour, juste pour finir?
Là, on a un super projet qui est assez gros par rapport aux autres fermes qu'on a faites, qui est assez différent dans les Landes. On est en train de racheter, on va racheter une ferme d'à peu près 180 hectares qui faisait jusqu'à présent du maïs en agriculture très conventionnelle, avec beaucoup d'irrigation l'été en plus. Et là, l'idée, c'est de développer une douzaine de productions de céréales différentes, avec un petit peu de légumes plein champ également.
Ok.
Le tout en agriculture biologique. Et donc, c'est une installation qui se ferait en fin d'année 2022, voire tout début d'année 2023, avec un porteur de projet qui a expérimenté, qui essayait de s'installer depuis 4-5 ans, qui avait du mal à trouver et à financer sa ferme. Et donc, on est super content de financer ce projet-là, parce que c'est un projet qui va... parce qu'on part de très loin sur les terres, donc qui va fortement améliorer le type de production à cet endroit-là précis. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur.
Écoute, intéressant, on suivra tout ça, cette évolution de près avec grand plaisir. Pour finir, toi, à titre personnel, parce que donc on est sur le podcast de La Bonne Fortune, sur une chaîne d'investissement, d'épargne, en dehors de ta boîte, en dehors de tout l'investissement que tu as pu y mettre dedans, hein, de cœur, d'énergie, d'argent, est-ce que tu as d'autres classes d'actifs sur lesquelles toi tu investis, que tu aimes bien, et oui, pourquoi ?
Alors, historiquement, j'ai fait un petit peu d'immobilier en tout début de carrière, puis j'ai continué à en faire un petit peu, mais de plus en plus, moi j'ai redirigé mes investissements, j'ai fait pas mal de crowdfunding au début, parce que ça me plaisait justement d'investir dans des projets qui ont du sens pour moi. Après le crowdfunding, j'ai aussi investi beaucoup en direct dans des sociétés, je fais de l'investissement dans des startups.
Ouais, l'equity, la prise de participation directe.
Ouais, alors j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui entreprennent autour de moi et qui développent des super projets dont on me parle assez tôt, et donc je mets des petits tickets régulièrement dans des sociétés de ce type-là qui sont en démarrage, donc en amorçage. Et donc c'est principalement dans des sociétés qui ont aussi un impact sur l'environnement ou qui ont un impact social. Donc les dernières sont plutôt sur des sujets d'économie circulaire autour de l'alimentation ou l'agriculture. Parce que voilà, c'est des sujets qui me parlent bien.
D'accord, ok. Il y a une ou deux boîtes que tu pourrais citer comme ça dans lesquelles tu as mis un ticket ?
Ouais, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Toupie Organics, que j'aime beaucoup, qui en fait récupère de l'urine humaine.
Ah, cool.
soit dans des événements, des fêtes, des festivals, des fêtes, ou soit directement dans des stades de foot ou dans des écoles ou même dans des stations-service. Et donc ils récupèrent cette urine avec un procédé très low-tech, ils la transforment en un fertilisant pour les sols. Et donc je trouve ça vraiment top parce que c'est vraiment de l'économie circulaire avec un procédé en plus hyper low-tech, parce que ce qu'ils font en fait c'est juste qu'ils récupèrent l'urine, ils filtrent un tout petit peu et puis derrière ils mettent quelques bactéries, ils font chauffer à 40 degrés pendant quelques jours et ils en sortent avec un produit qui est un super fertilisant. Et puis là dernièrement j'ai investi dans une société qui s'appelle Yesti. Et donc là aussi on est sur l'économie circulaire, c'est une société qui a pour objectif, ils en sont vraiment au tout début pour le coup, ils récupèrent des levures de bière en fin de process de fabrication de bière.
Okay.
Parce qu'on parle souvent de la drèche qu'on récupère à la fin de la production de bière, mais il y a aussi des levures qui sont aujourd'hui, on sait pas trop quoi en faire, et eux ils ont pour objectif de récupérer ces levures pour en faire des aliments végétaux protéinés, et donc pour remplacer un peu la protéine animale. Voilà, je trouve ça hyper intéressant comme projet.
Ouais. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et surtout tout ce qui est organique et vivant. Et encore une fois, soit ça peut retourner au sol, à la vie du sol, etc. Soit ça part sur d'autres choses. Donc de l'equity là-dessus, sur des entreprises qui font sens avec toi. Tu as parlé, bon, je ne vais pas te redemander, hein, mais des différentes ressources en tout cas qui t'ont impacté, que ce soit notamment en lecture. Sur l'investissement, peut-être plus particulièrement, est-ce que tu as peut-être une ressource à conseiller aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, qui toi t'as peut-être inspiré, que tu pourrais recommander, sur l'investissement ou peut-être même l'entrepreneuriat ou autre chose?
Sur l'investissement, j'avoue que j'ai pas lu grand chose, je me considère plutôt comme un autodidacte là-dessus. Sur l'entrepreneuriat, pareil, j'ai lu quelques trucs, mais rien qui m'a vraiment fasciné. À une époque, j'avais lu une biographie que j'avais trouvée assez intéressante sur Elon Musk. Mais bon, c'est un personnage que j'ai de plus en plus de mal à apprécier. Donc voilà, bon, il a quelques côtés intéressants et fascinants, mais c'est un personnage qui me déplaît sous d'autres aspects. Mais sa biographie était assez intéressante en termes d'entrepreneuriat. Je lis plus en effet sur des sujets agricoles aujourd'hui, sur des sujets un peu de ressources et sur des sujets qui touchent à l'environnement. Et puis je lis ensuite plus des romans et d'autres choses, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt ici.
Parfait. Et une dernière petite question avant de te donner le mot de la fin pour cette émission. As-tu un avis, ton œil sur la technologie de la blockchain aujourd'hui? Parce que ici, on parle aussi sur cette chaîne de crypto-monnaie, etc. Mais indépendamment de l'investissement et des choses, mais en tout cas, la technologie de la blockchain, et surtout d'un point de vue de l'agriculture, sur tout ce qui est peut-être traçabilité, quelle est ta vision de la blockchain? Qu'est-ce qu'elle peut amener, améliorer, participer pour l'évolution dans le bon sens, en tout cas, de l'agriculture d'une façon générale?
Ouais, alors là j'ai un petit peu plus de mal à donner mon avis parce que c'est des sujets que je connais un peu moins bien. J'ai en effet l'impression que la blockchain peut être très intéressante en termes de traçabilité, surtout que quand on achète des produits alimentaires, ils ont été transformés, ils sont passés par différents endroits et aujourd'hui c'est impossible de savoir d'où viennent chacun des composants et comment ils ont été transformés, etc. Donc je pense que la blockchain pourrait être intéressante sur ces sujets-là. Je vois arriver quelques initiatives qui peuvent être intéressantes. Ce que je vois aussi, c'est quelques initiatives autour des, justement, je parlais tout à l'heure de label bas carbone, et qui permettraient de mieux gérer l'unicité du label qui va être acheté par un tiers auprès d'un agriculteur. Donc il y a des choses autour de ces sujets-là qui se passent et qui peuvent être intéressantes. Après, moi, un peu le risque que je vois, c'est que des fois, on utilise la blockchain un peu à tout va et dans des cas où ça me paraît pas indispensable. Mais en effet, je pense que le sujet le plus intéressant, c'est quand même la traçabilité, où là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça.
Ouais. Donc ça peut apporter dans le futur, ça se développe tout doucement. Maintenant, faut qu'il y ait vraiment une utilité, un impact, et c'est pas juste de dire j'utilise la blockchain, ouais, je suis new wave, c'est bon, je suis funky et venez avec moi ça, juste pour le délire, alors que ça n'apporte rien de plus en termes d'utilité.
Ouais, c'est ça, parce que je vois quand même pas mal de boîtes qui dans leur pitch, comme je vois pas mal de startups, je reçois pas mal de pitch, et quand je vois des boîtes qui sont pas du tout là-dedans, mais qui essaient de placer NFT, blockchain, juste parce que c'est des buzzwords, que ça permet de faciliter la levée de fonds, je trouve ça un peu ridicule. Mais voilà, pour certains usages, ça pourrait être intéressant, et je pense qu'en effet, la traçabilité des produits alimentaires, c'en est un.
Top. Bah écoute, merci pour ton œil et ton avis éclairé sur cette question. Merci pour cette émission vraiment passionnante, Vincent. Moi, je pourrais discuter des heures d'agroécologie, de climat, de potager. Je te ferai une petite confidence sur le pipi après, hors émission. Non, tout simplement, c'est que je peux le dire ici, c'est que je fais pipi dans mon arrosoir, je dilue et puis je vais arroser certaines dans mon potager.
Je fais pareil.
Et en tout cas, ouais, une émission vraiment vraiment passionnante. Et puis, encore une fois, je mettrai tous les liens. Je rappelle celles et ceux qui souhaiteraient investir avec FEV, donc à partir de tickets minimum de 500 €, la prise de participation en direct, différentes possibilités d'investir, personne physique en profitant de l'IR-PME, voire personne physique en étant dans le dispositif PEA-PME, ou personne morale sous certaines conditions, etc., etc., et le plaisir de participer, d'aller à la rencontre de tous ces gens qui veulent s'installer. Et merci pour tout ça. Je remettrai tous les liens en commentaire. Il y a le code aussi, celles et ceux qui des auditeurs de La Bonne Fortune qui souhaiteraient investir, vous bénéficiez de 50 € de frais offerts. L'absence de frais, voilà, à hauteur de 50 € avec le code La Bonne Fortune. Et puis, comme d'habitude, je remettrai tous les liens de toutes les ressources qu'on a évoquées ici, que ce soit les bouquins, les documentaires, etc. Et bien entendu, le site de FEV, FEV.co, FEVE.co. Pour toi, Vincent, on te retrouve où sur LinkedIn plutôt, où tu es plutôt présent? Tes associés,
oui,
également
sur LinkedIn, ou après vous pouvez me contacter, j'ai une adresse mail qui est toute simple, c'est vincent@fev.co. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, j'essaierai d'y répondre.
Bon, ben super, en tout cas c'était vraiment un grand grand plaisir, et puis je te laisse le mot de la fin avec plaisir également pour conclure cette émission, Vincent.
Écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour tes questions. C'était agréable, j'ai passé un bon moment avec toi, et j'espère que notre échange plaira aux auditeurs. À très bientôt.
Yes, merci, au plaisir. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao !